La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Demain, 17h, parce que le gouvernement Legault va déposer son plan de déconfinement, entre guillemets, pour le Québec. Écoutez, il y avait ce matin dans le National Post tout un article sur ce qu'on appelle les peurs injustifiées en ce qui a trait à la COVID-19 et en particulier sur la transmission de la COVID-19 à l'extérieur. On rappelle quand même que le taux de contamination à l'extérieur est de 0,1%, et c'est rempli de scientifiques, de médecins et d'analystes qui disent le fait de porter le masque à l'extérieur, le fait aussi d'imposer le masque aux gens qui sont vaccinés, ce sont des recommandations qui ne tiennent pas la route. J'espère que Dr Arruda, Christian Dubé et François Legault vont lire ce texte-là et qu'ils vont s'en inspirer pour les recommandations pour demain. On a vraiment hâte de pouvoir commencer à retrouver une vie normale. C'est ce qu'on nous promet depuis le début en disant « Faites-vous vacciner, retour à la vie normale. Faites-vous vacciner, retour à la vie normale. » Ben là, on a adhéré à la vaccination. Là, on le veut, notre nanane. On veut retrouver une vie normale. Quand j'ai vu que ces chiffres-là sur la vaccination, j'ai poussé un très enthousiaste. Ben voyons donc.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Demain à 5h, on va savoir à quoi ressemble le plan de déconfinement du gouvernement Legault. Mais en France, c'est déjà commencé. C'est la folie en France, en particulier à Paris, avec la réouverture des terrasses. On s'en va tout de suite rejoindre Christian Rioux, qui est correspondant pour Le Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à plusieurs émissions à Cube Radio. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Sophie.
Il fait beau à Paris pour célébrer l'arrivée des terrasses?
Malheureusement, pas tout à fait. C'est un peu plus vieux en ce moment, donc là, c'est entre deux. Alors, il y a beaucoup de suspense. Hein. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air parce que on n'imagine pas Paris sans terrasse, hein, évidemment. Or, ça fait 7 mois qu'il n'y a pas de terrasse à Paris, et il y en a eu pendant un petit bout de temps l'été dernier, et puis avant, il n'y en avait pas non plus. Donc, ça ouvre mercredi. Les gens ne parlent que de ça. Avez-vous réservé votre terrasse? Allez-vous aller en terrasse mercredi? Il n'y a pas que les terrasses là, qui vont ouvrir. Il y a aussi les cinémas, les musées, les monuments, les théâtres, mais évidemment avec des jauges assez restreintes. Et écoutez, il y a même les remontes-pentes hein, qui ouvrent.
Bye-bye. OK.
oui, mercredi. Mais il semblerait, on a découvert ça, qu'il y a des gens qui font du ski de glacier. Donc,
ils doivent être
très nombreux, mais bon, ceux-là pourront toujours utiliser le remontante. Mais effectivement, tout se concentre là sur les terrasses. Évidemment, ça sera 50% seulement de la terrasse. Il va y avoir évidemment des distances réglementaires et 6 personnes par table seulement, c'est les règles. Mais effectivement, on assiste à des phénomènes très, très étranges.
Racontez.
On assiste à des réservations de terrasses. à l'avance. Les gens réservent, en particulier, j'habite pas très loin des buttes Chaumont.
Oui.
Vous savez, ce espèce de parc là, très encaissé, là, avec des avec un petit étang, une grotte.
C'est magnifique, oui.
Qui est très sympathique. Et dans les buttes Chaumont, il y a un petit pavillon, ça s'appelle le pavillon Puebla, qui est un très joli pavillon, style 1900, avec des tables autour. Eh bien, il semblerait que tout est réservé pour mercredi. Et les gens réservent en particulier notamment des restaurants étoilés. Une, deux,
ah,
trois
oui.
étoiles. Il semble que qu'on se rue là-dessus. Les gens veulent fêter le déconfinement en allant manger, en allant bien manger. D'autant plus que là, le couvre-feu va être reporté à 21h. Donc, il est possible donc d'aller souper ou d'aller dîner là, dans un restaurant. Vous savez, un restaurant, par exemple, comme Christophe Bacquier dans le Var ou Alexandre Madia à Marseille, c'est réservé jusqu'à l'automne. Tout est réservé. Oui, tout est réservé.
C'est pas vrai.
L'automne parce que, bon, le 9 juin, on va pouvoir entrer dans les restaurants. Mais là, évidemment, on va y entrer à 50% avec des tables de 6 personnes et donc ce genre de distance. Voilà. Donc c'est une folie, je vous dirais, de réservation en ce moment. Évidemment, la terrasse du coin, on peut pas la réserver, mais j'ai bien l'impression que ça va faire la queue comme pour aller acheter sa baguette le soir tard avant la fermeture des boulangeries, là, vous savez.
Mais c'est important de parler de ça, Christian, mais c'est important aussi de remettre ça dans le contexte. C'est-à-dire que pour les gens qui peut-être connaissent moins la France, c'est la culture du café est tellement imprégnée. Tu sais, nous au Québec, on a des terrasses. Bon, évidemment, elles sont ouvertes seulement l'été, parce qu'au mois de janvier, personne va à la terrasse. Mais en France, il n'y a pas un coin de rue, il n'y a pas un bout de rue où il n'y a pas au moins un café où les gens s'en vont prendre leur petit crème le matin. La culture du café, la culture de la terrasse fait partie, j'oserais même dire, de l'identité française.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. On en avait beaucoup... On en avait beaucoup parlé, on avait réalisé ça un peu au moment de, vous savez, des attentats du Bataclan,
oui.
Où il y avait des terrasses justement qui avaient été visées à ce moment-là. On avait beaucoup parlé, mais effectivement, je pense que la terrasse, c'est en France en général et à Paris en particulier, c'est ce qu'on pourrait appeler un art de vivre. Hein.
C'est ça.
Vous savez, les gens souvent à Paris vivent dans des petits appartements. Et c'est une espèce de plaisir pour eux de se retrouver en terrasse. Les étudiants fréquentent énormément les terrasses. Ils se donnent rendez-vous là. Après l'école, les parents y vont avec les enfants d'ailleurs. Hein,
oui.
S'installent en terrasse, les enfants jouent par terre, font toutes sortes de choses. Donc c'est véritablement un art de vivre à Paris la terrasse. Il y a une excitation. C'est le lieu public par excellence. Vous savez, c'est le lieu où on se voit, où on se fait des clins d'œil, où on peut
les Français font jamais ça. Les Français font ça, des clins d'œil? Ben non, Christian, vous exagérez la réputation des Français.
Mais pourquoi pas? Absolument. Donc c'est vraiment le lieu, je vous dirais, de toutes les séductions, de tous les paroles. Il y a à la limite, je dirais qu'il y a à Paris sur les terrasses, il y a même une façon de parler aux serveurs de café. Vous savez, aux garçons de café, vous connaissez le fameux film d'Yves Montand, Garçon. Mais on n'aborde pas n'importe comment un garçon de café.
Film de sauter,
on parle d'une certaine façon si vous voulez avoir être bien servi voilà donc c'est très important la terrasse ici et je pense qu'on va le réaliser mercredi prochain là.
Il y a même chaque année, enfin bon, évidemment, là, en période de pandémie, il n'y en a pas, mais il y a des concours hein, de garçons de café où il faut qu'ils se déplacent sur une longue distance en tenant leur cabaret à la main sans laisser tomber, parce que c'est toujours impressionnant de voir aller les garçons de café en France, où ils arrivent à tenir sur leur petite plateau, là, des tonnes de verres, de petits bols de cacahuètes et tout. Ils sont toujours impressionnants.
Absolument, mais il y a aussi, il y a ça, il y a tout un autre genre, il y a toute une façon aussi de s'adresser aux gens d'une manière un peu conviviale. Je le sais, mon voisin ici est garçon de,
garçon
de café pendant longtemps. Et je vous dirais, garçon de café en France, c'est un métier, hein.
Tout à fait.
On voit moins ça parce que c'est plus des emplois d'étudiants très souvent, mais ici, ça le devient progressivement. C'est plus souvent aujourd'hui des emplois d'étudiants, mais c'est encore un métier, garçon de café. Et donc c'est des gens qui sont fiers, de leur métier, de ce qu'ils font. Et donc, j'ai l'impression que, en tout cas, mercredi, ils vont être extrêmement heureux de revoir la clientèle, revenir.
Bon, alors on a parlé beaucoup des terrasses, mais c'est important parce que nous, au Québec, bon, les cinémas, les musées sont ouverts. Enfin bon, ça dépend des régions, évidemment, puis ça dépend de la couleur des régions. Mais quand on pense à la France, on pense évidemment à sa culture. Donc, c'est des gens qui sont assoiffés de ça et qui en ont été privés pendant des mois. Donc, j'imagine que ça va être aussi la ruée vers cinéma, théâtre, musée. Ça va être la grosse folie quand même.
Oui, absolument, ça va être la ruée. Pensez au cinéma seulement. Il y a des dizaines, je vous dirais, des dizaines de films qui sont bloqués depuis des mois. Certains sont sortis en VOD en
version sur demande,
ou à la demande là sur Internet, mais la plupart, en tout cas, et les plus grandes productions, les plus importantes, ont été bloquées. Donc on s'attend à un déluge de sorties de films à Paris très bientôt cet été, au printemps cet été et cet automne. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller tous les voir. Et évidemment, c'est la même chose dans toutes sortes d'autres domaines comme le théâtre et je vous dirais que pour ce qui est des musées, le grand plaisir à Paris, ce sera d'aller visiter les musées, mais sans les touristes. Alors, je n'ai rien contre vous, mais je vous dirais que ça fait plaisir d'aller voir des musées sans la cohue, d'autant plus que là, évidemment, il y aura des jauges particulières, mais en même temps, sans les touristes qui, souvent, arrivent en autocar plein, souvent ont réservé d'avance, donc vous passent devant.
Ils n'ont pas des très bonnes manières.
De touristes de masse à Paris. Et là, on va pouvoir aller voir des œuvres, le Louvre, sans ça, ce qui est absolument extraordinaire. Savez-vous même que les clubs libertins vont pouvoir réouvrir?
Oui,
absolument. La semaine dernière, il y a un député...
Les clubs échangistes, là?
Comment?
Oui, les clubs échangistes.
La semaine dernière, il y a un député, Philippe Gosselin, qui s'est levé ensemble pour dire « c'est injuste, on va réouvrir les clubs libertins, les clubs échangistes », alors que les discothèques, elles, n'ont pas de date encore de réouverture. Ouais. C'est pas prévu avant la fin, probablement, du mois de juin. Alors, il trouvait ça absolument injuste. Et il semble qu'effectivement, ces clubs libertins, certains, en tout cas, du moins, ont le statut de restaurant. Donc, on ne sait pas trop comment ils vont faire. Évidemment, Club Libertin sur une terrasse, c'est un peu malaisé. Comment pratiquera-t-on les gestes barrières? Ça, c'est mystérieux. J'imagine que des journalistes vont se charger d'aller enquêter là-dessus.
Oui. Ben écoutez, ici au Québec, vous savez, il y a ce cinéma vraiment connu sur le boulevard Saint-Laurent, le cinéma L'Amour. Et évidemment, les gens sont très très peu intéressés à savoir ce qui se passe à l'écran. Et les gens batifolent allègrement dans les allées. Et il y a un collègue chez nous, Louis-Philippe Messier, qui est allé justement, il a passé 8 heures au cinéma L'Amour. Et il peut témoigner qu'il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient l'amour, en effet, à plusieurs. Donc voilà. Donc c'est pas un club échangiste. Hein? Oui, voilà, mais c'est important d'aller sur le terrain. Hein, c'est très important d'aller rapporter les choses telles qu'elles se passent sur le terrain pour rapporter les parties de jambes en l'air. Mais on rigole, mais tout ça fait partie de l'esprit français. La bonne bouffe dans les restaurants, les terrasses, les musées et aussi les parties de jambes en l'air, ça fait partie quand même de l'identité française. Et ce qui est surprenant, par contre, Christian, c'est que la France déconfine alors que, si je comprends compare, par exemple, avec le Québec ou le Canada, le taux de vaccination en France est beaucoup moins élevé qu'il ne l'est ici au Québec?
Oui, le taux de vaccination est moins élevé. Il y a encore quand même pas mal de monde dans les hôpitaux, mais on sait que ça descend, on sait que ça baisse. Ouais. La situation n'est pas aussi bonne qu'au Royaume-Uni, évidemment, où on a beaucoup vacciné. Elle n'est pas, je pense, aussi bonne non plus qu'en Espagne, où là, vraiment, presque tout est réouvert. Mais disons qu'on est assez confiant de la direction dans laquelle on s'engage. Et je pense un peu pour ça que Emmanuel Macron a pris ces mesures-là. Et je vous dirais que les Français, vous le dites vous-même, le café, la terrasse, le cinéma, c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit français, de la joie de vivre française. Et je pense que les Français ont ressenti très durement cette espèce de période où chacun était chez soi, le simple fait de ne pas se faire la bise en France, je vous dirais que c'est dur, c'est difficile parce que c'est le pays de la bise. Les hommes même quand ils sont très amis s'embrassent. Donc voyez-vous, c'est, la France c'est un pays de contact, c'est un pays charnel. Et je vous dirais que la période qu'on vient de traverser a été certainement très difficile pour les Français.
Oui, ben écoutez, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais manifestement, je vous l'ai jamais raconté. Mon frère est chef d'entreprise, il habite en France et donc ses bureaux sont à La Défense à Paris. Et oui. quand il a commencé son entreprise en France, il en revenait pas parce que quand il arrivait au travail le matin, tous les employés se font la bise, donc on perd une demi-heure chaque matin. Bonjour, on se fait la bise. Bon, et puis après, ben là, mon frère était là, ben là, en bon nord-américain, il disait, mais là, c'est parce que j'ai l'impression qu'on commence à travailler. Mais ce rituel-là de la bise à l'arrivée, au départ, fait vraiment partie de... Donc, alors là, avec les gestes barrières, évidemment, on oublie ça. Écoutez, Christian, il faut absolument qu'on parle sur un ton beaucoup plus lourd et beaucoup plus sordide d'un fait divers qui a vraiment secoué la France la semaine dernière. Une femme brûlée vive, mais quelle horreur!
Oui, absolument. C'est survenu à Mérignac, là, qui est une petite ville près de Bordeaux. C'est presque à l'intérieur, dans le fond, du Grand Bordeaux. C'est une jeune mère de famille, chaminaise, mère de trois enfants, qui a été brûlée vive par son conjoint. Son conjoint est arrivé en voiture, lui a tiré dessus et est entré dans la maison, est allé chercher ce qui était visiblement de l'essence et lui a mis le feu. Elle est décédée là d'une incapacité respiratoire et de ses brûlures. Et je vous dirais que il y a deux choses qui étonnent. La première chose, c'est que on a le sentiment qu'il s'agit d'un crime d'honneur. L'enquête nous en dira un peu plus, mais il s'agit de quelqu'un qui est originaire d'Algérie. Le mariage d'ailleurs avait été prononcé en Algérie, quelqu'un qui a la double nationalité. Et les voisins, en tout cas de cette jeune fille, témoignent en disant que cette jeune fille chaminaise voulait vivre comme en France, c'est-à-dire qu'elle voulait sortir dans les cafés, justement, dont on parlait tout à l'heure. Elle voulait porter des jeans, elle voulait mener, dans le fond, la vie des Françaises, alors qu'il semble que son mari, comme je vous dis, on en saura plus au moment de l'enquête, mais ce sont les témoignages qu'on entend en ce moment, alors que son mari voulait, lui, une femme, je dirais, qui agit comme on le fait en Algérie. Alors ça, c'est la première chose, je vous dirais, qui a choqué l'opinion publique ici en France. La seconde, c'est que son mari avait été condamné à 7 reprises pour toutes sortes de délits, mais il sortait de prison il était sorti en juin 2020, et là, c'était pour des violences, justement, sur sa femme, et qu'il avait agressé. Or, il semblerait qu'on l'ait laissé sortir sans trop de contrôle et sans surtout, vous savez, maintenant, il semble qu'on ait accès partout à ça, c'est-à-dire à des bracelets anti-rapprochement où on est averti immédiatement si la personne se rapproche de vous, et aussi sans un téléphone d'urgence qui est consacré exclusivement à cette question-là. Et donc, en France, on s'interroge un peu sur l'efficacité donc de tous les services de justice dans ce genre de situation, et aussi sur toute la question du crime d'honneur, des choses qu'on a connues chez nous d'ailleurs au Québec.
La famille Safia. Oui, tout à fait.
Oui,
la famille Safia, entre autres, parce qu'il y avait aussi cette jeune fille perverse, je pense. Son père l'avait tuée parce qu'elle refusait de porter le voile ou une histoire semblable. Donc, oui, des crimes d'honneur, ça existe encore au 21e siècle sur la planète Terre. C'est absolument sordide comme histoire. Écoutez, Christian, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça. Et puis, bonne chance mercredi pour vous trouver une place en terrasse. Vous prendrez, s'il vous plaît, un petit verre de rosé, tiens, à ma santé et à la santé de tous les Québécois qui attendent impatiemment de savoir quand est-ce que nous aussi, on va pouvoir aller en terrasse, sachant qu'il y a 0,1% de chance d'attraper la COVID quand on est en terrasse, quand on est à l'extérieur. Merci beaucoup, Christian.
Oui, absolument, à l'extérieur. Mais promis, je trinquerai à votre santé.
D'accord. Merci, Christian.
À bientôt.
Christian Rioux. Christian Rioux, qui est correspondant pour Le Devoir à Paris, le chanceux, et qui est aussi collaborateur ici à plusieurs émissions, dont je l'ai en garde partagée avec mon mari Richard Martineau. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles de ce qui se passe en France.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe, là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Je suis amie Facebook avec André Ducharme, ex de RBO, et il a publié au cours des derniers jours un message vraiment très touchant où il raconte, il y a 40 ans exactement, à quel point il était un petit cul perdu, et comment a commencé la fabuleuse aventure de RBO. Alors je me suis dit, plutôt que de le lire sur Facebook, je vais lui parler en personne puis partager ça avec tous les auditeurs de Cube. André Ducharme est au bout de la ligne. Bonjour André.
Bonjour, comment vas-tu, virtuel ami?
Ben moi, je vais très bien, virtuel ami. Écoute, ton message sur RBO, sur Rock et Belles Oreilles, m'a beaucoup touchée. Surtout que tu finissais ce témoignage-là en disant « Bravo, bon 40 ans à RBO, ma deuxième famille ». C'est vraiment oui. Ce sentiment-là qui t'habitait quand tu repensais à ces 40 dernières années?
Ben en fait, oui. Et RBO, c'est une drôle d'histoire parce que... Les membres d'RBO, au tout début, on se connaissait pas vraiment. C'est presque un mariage de raison, si on veut.
Ouais.
C'est une émission de radio où on se réunissait, mais il y avait plein de monde qui gravitait autour de ça. Puis à un moment donné, il y a comme un noyau dur qui s'est formé. Puis avec le temps, ben ce noyau dur-là, c'est vraiment devenu une famille. Des liens qu'on a entre nous, c'est des liens d'affection très forts, puis des liens qu'on peut qualifier de filiaux, c'est ça le mot. C'est vraiment ça, parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble, pas seulement professionnellement, personnellement aussi. Il nous est arrivé plein d'affaires qui font en sorte que, ben, avec le temps, c'est vraiment devenu une famille. Ma deuxième, parce que j'en ai une autre. Il y a un lien entre les deux, c'est ça mon message.
Oui, mais tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la façon dont tu le racontes, c'est que toi, tu faisais donc un spectacle avec ta gang musicale, les Yellow Frogs. Puis là, tu le racontes. Donc, je me permets de te citer sur Facebook. Tu dis, après le spectacle, il y a un monsieur moustachu que je connaissais pas qui est venu me voir. Je m'appelle Richard Z. Sirois et avec mon ami Guy Lepage, on commence vendredi prochain une nouvelle émission de radio qui va s'appeler Rock et Belles Oreilles. On aimerait ça faire jouer vos sketchs et les chansons des Yellow Frogs. Mais la façon dont tu le racontes, c'est vraiment très très formel, alors qu'aujourd'hui vous êtes indissociables les uns des autres. Donc c'est vraiment amusant de savoir la façon très formelle et très proprette dont tout ça a commencé.
Mais moi je connaissais même pas Richard Sirois. La première fois qu'il venait me parler, lui, il était là il est plus vieux que moi. Moi j'étais vraiment le bébé, hein. J'avais 19 ans quand ça a commencé. J'étais vraiment j'étais un petit cul. Et à 19 ans à l'université, surtout dans ces années-là, l'UQAM, je pense que la moyenne d'âge, ça devait être à peu près 68 ans. J'exagère, mais il y avait beaucoup de monde pas mal plus âgé. Je me sentais vraiment pas à ma place. face. Et Richard, lui, avait peut-être 24 ans. Et pour moi, quelqu'un de 24 ans, c'est un monsieur, là, tu sais.
C'est un vieux.
Avec sa moustache, c'est un vieux, tu sais. Fait qu'il y avait un vieux monsieur qui est venu me demander de faire de la radio avec lui. Et dans mon esprit, c'était... My God, c'est donc bien sérieux, cette histoire-là. Et je connaissais Guy parce que Guy n'a pas changé. Quand Guy entre quelque part, et il aspire l'air au complet de la place. Ça fait en sorte que tout le monde connaissait Guy Lepage, mais j'avais aucun contact avec lui, même que je le trouvais un peu fendant et un peu prétentieux.
Je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Il a beaucoup changé. Sérieusement, oui, le Lepage d'aujourd'hui est pas mal plus humain que celui que j'ai connu.
Oui.
Je joue un peu avec les mots, mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore. Mais à l'époque, j'étais pas certain. Tout ça pour dire que c'est comme ça que ça a commencé. Avec le Feu sauvage de l'amour, la clé de toute cette histoire-là, c'est la chanson Feu sauvage de l'amour que j'avais composée avec Jacques Chevalier. Jacques Chevalier qui est dans les Bleues Poudres, qu'on connaît aussi, Jacques Chevalier Longueuil. Et on avait composé cette chanson-là, on avait 16 ans. Oui, 16 ans, en fait. Et on était un groupe musical comique, on faisait des chansons un peu rigolotes, puis on avait, comme je dirais, une carrière un peu semi-professionnelle. On faisait des shows un peu partout, mais on n'était pas des vedettes. Et c'est cette chanson-là qui a comme cliqué chez Richard et chez Guy, qui ont dit « Hey, on veut travailler avec ce gars-là, c'est le fun ce qu'il fait. » En fait, l'offre était pour Jacques aussi, Jacques était dans les débuts de Rock et Belles Oreilles également. Et puis c'est comme ça que ça a parti. À partir finalement d'un show dont moi, c'est même pas moi qui avais eu l'idée, je l'explique dans mon texte.
C'est très drôle, ben oui.
C'est une fille avec qui je travaillais à l'université et qui avait pensé à ça. Elle disait, hey, on pourrait faire une émission d'humour autour de vos chansons, ça serait drôle. Et cette fille-là, et c'est le punch de mon texte, c'est devenu ma blonde, puis c'est devenu,
et
on
voilà.
Est encore ensemble aujourd'hui. Voilà, c'est ça l'histoire. Et moi, je dis toujours, c'est le 8 mai que c'est arrivé, ce spectacle-là. Et si je m'étais pas levé, si j'étais resté chez nous ce matin-là, j'aurais raté probablement l'ensemble de ma vie, pas juste ma carrière, ma vie au complet. c'est vraiment ça. Il y a vraiment un lien extraordinaire entre les deux histoires.
Si tu t'étais pas levé, oui, c'est ben tout à fait, mais si tu t'étais pas levé ce matin-là, tu serais peut-être vendeur chez Yellow au lieu d'avoir fait les Yellow Frogs et tu serais peut-être marié avec quelqu'un de plate et de pas le fun puis tu serais peut-être malheureux comme la pierre.
Alors que c'est ma blonde qui est mariée avec quelqu'un de plate et pas le fun.
Écoute, on va écouter un petit extrait du Feu sauvage de l'amour. Jean-François Roy, qui travaille avec moi, vient de la trouver. Merci. On écoute ça. La maladie du baiser, le feu sauvage de l'amour. Alors, c'est ça aussi la grande force de RBO, c'est les sketchs et les chansons, mais des trucs avec des vers d'oreille. Écoute, 40 ans plus tard, on la chante encore, le feu sauvage de l'amour. Donc, ça doit te faire quand même un petit velours à chaque fois que les gens entonnent ça.
Ben moi, c'est vraiment spécial parce que à chaque fois que cette chanson-là joue, puis elle joue encore pas mal, moi, je me transporte pas 40 ans en arrière, 45 ans en arrière. Parce que on parle de 1977 à peu près quand ça a été écrit. On était vraiment des petits coups, on était au secondaire. Là, puis je me rappelle, on jouait cette chanson-là dans le sous-sol de Jacques Chevalier quand on répétait nos spectacles. On se regardait, on disait « Hey, cette chanson-là, c'est un hit ». Mais on a 16 ans. Il n'y arrivera jamais rien avec cette chanson-là. On va la chanter à Polyvalente. On va la chanter au Cégep. Puis il n'y arrivera plus rien après. Puis finalement, il est arrivé quelque chose. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est magique un peu.
Mais ce qui est magique, André, c'est qu'il y a sûrement plein de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être 16 ans. Puis de t'entendre parler de ça, ça va leur donner peut-être le coup de pied au derrière pour se dire, t'es dans ton sous-sol, tu joues peut-être, ou t'es devant ton ordinateur en 2021, c'est plus comme ça que ça se passe, mais de dire que quelque chose que tu crées dans ton sous-sol, à un moment donné, va devenir quasiment un hymne national, c'est quand même assez impressionnant. Écoute.
Je pense que ce qui est important, c'est quand t'as une passion, quand t'as quelque chose qui te fait triper. Tu sais, quand t'es jeune, moi souvent, je donne des conférences dans des écoles, puis c'est l'affaire que je dis, quand vous trouvez quelque chose qui vous fait triper, là, garochez-vous là-dedans. La voix est là. La voix, c'est pas dire, parce que souvent, les jeunes nous demandent, hey, c'est-tu payant ce que vous faites? Fais pas une job parce que c'est payant, parce qu'il y a bien des chances que tu vas être bien malheureux dans cette job-là, c'est pour ça que tu as fait. Fais quelque chose qui te fait triper, puis ça se peut que ça devienne effectivement ton gagne-pain, tu sais.
C'est un très, très bon conseil, puis t'as tout à fait raison. Je vais faire écouter ce bout-ci de l'entrevue à mon fils de 13 ans. Non, mais c'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que les jeunes ont souvent tendance à calculer, si tu veux, le succès en termes monétaires, mais tu sais, quand on regarde les influenceurs puis tout ça, mais on s'en fout, c'est pas ça qui devrait être ta motivation à te lever le matin, comme tu l'as fait le 8 mai il y a 40 ans.
Oui,
écoute, écoute, on a tous des sketchs ou des moments préférés de Rock et Belles Oreilles. Écoute, avec l'actualité qu'il y a en ce moment avec ce qui se passe en Israël, je pouvais pas m'empêcher, évidemment, de faire jouer un extrait de votre sketch anti-Palestine.
Prédit dans la région et que vous sentez que ça résiste trop. Employé anti-Palestine pour délier les muscles et anéantir les points de tension. Anti-Palestine est efficace pour le côlon. Il contient du Fanatix, de l'Orthodoxe et de l'Acidine. Trois agents super puissants.
Est-ce que vous pourriez faire ça 40 ans plus tard?
Ben, nous autres, on le ferait, ça, c'est sûr qu'on le ferait. ce qui a peut-être changé 40 ans plus tard, c'est la frilosité peut-être des diffuseurs qui étaient moins présentes à ce moment-là. Puis, évidemment, les réseaux sociaux qui font en sorte que chaque petite chose devient une gigantesque montagne. C'est sûr qu'un sketch comme ça provoquerait des réactions sur les réseaux sociaux qui seraient très, très, très forts et on aurait à gérer ça. Je ne sais pas comment on le ferait. C'est vraiment hypothétique, là. C'est dur de le savoir. Puis, on se pose beaucoup ces questions-là ces temps-ci quand on se parle entre nous. Comment on dealerait dans cette nouvelle réalité-là où c'est peut-être plus difficile, effectivement, d'émettre des opinions, où l'humour et l'ironie, je sais que Richard a écrit beaucoup là-dessus, sur le fait que l'ironie, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Les gens comprennent plus les jokes.
Richard, mon mari, oui.
Oui, absolument. Tu le connais.
Non, pour pas que les gens pensent que tu parles de Richard Sirois, non, c'est pour ça. Oui.
Non, excuse-moi. C'est ça, c'est que j'en fais de moins en moins des blagues sur Twitter, par exemple, parce que quand j'en faisais, je me ramassais pris dans des controverses et des débats et des attaques personnelles, parce que les gens comprenaient pas que, hey, je fais une blague, c'est pas une opinion, tu sais. Et ça vient peut-être aussi du fait que les humoristes contemporains sont beaucoup dans l'opinion, c'est-à-dire que le personnage en tant que tel n'existe plus, ce qui fait en sorte que ce qu'un humoriste raconte sur scène, c'est souvent des idées personnelles, alors que nous, ça nous arrivait très souvent dans nos sketchs, je veux dire, le contraire de ce qu'on pensait.
Mais tout à fait, mais regarde par exemple quelqu'un comme Guy Nantel, il dit tout le temps, c'est pas moi, c'est le personnage de Guy Nantel sur scène. Donc, il fait un peu ce que, par exemple, faisait Yvon Deschamps. Tu sais, quand Yvon Deschamps riait des femmes, quand il riait des noirs, quand il riait de ci, quand il riait de ça, ben à l'époque, les gens étaient capables de comprendre que c'était pas ce que pensait Yvon Deschamps. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens sont capables de cette nuance-là et de cette subtilité-là? Peut-être pas. Puis votre sketch anti-Palestine, est-ce que vous auriez le lobby israélien sur votre dos? Est-ce que ce serait problématique? Mais chaque millimètre, chaque mot que vous dites serait pesé. Mais je veux revenir avec toi sur quelque chose, André. Oui. C'est que bon, il y a le document RBO The Archive, là. Je sais pas trop comment le penser.
C'est
The
Archive. Nous autres, ça a toujours été de quelque chose.
Ouais.
Alors c'est de Archive.
De Archive. À noter qu'un avertissement au début des émissions mentionne que le contenu comporte des scènes, des sujets et des parodies tirées d'archives d'émissions diffusées entre 1986 et 1988 qui pourraient offenser certains téléspectateurs, c'est ce qui est écrit dans le communiqué.
Oui, oui.
C'est pas un peu pissou? Est-ce que ça te dérange qu'il y ait cet avertissement-là avant les épisodes?
Ben écoute, c'est un choix de diffuseur, puis nous, notre réaction à ça, c'est que quand tu regardes les épisodes, il y en a 20, après cet avertissement du diffuseur, il y en a un de Rock et Belles Oreilles qui se fout de la gueule du précédent,
okay.
C'est ça notre réponse. Alors voilà.
Bon, ben c'est très bien répondu.
on a écrit 20 avertissements totalement ridicules.
Ah, c'est bon! Puis,
c'est ça. Voilà.
Voilà, je pense que
c'est
la réponse
c'est ma réponse.
La réponse est très, très bonne. André, je peux pas m'empêcher non plus, vu que c'est aussi dans l'actualité récente, de te faire jouer un petit extrait de RBO au sujet de Michel Louvain.
Monsieur Louvain, ah. Vous savez pas ce que j'ai entendu dire à votre sujet?
Non, quoi?
Ben, la rumeur qui court, là.
Je sais pas laquelle.
Eh oui, vous savez, la rumeur comme quoi vous seriez rien qu'une grosse...
Madame Brossard...
Est-ce que vous avez outé Michel Louvain avant le temps?
Ben, je pense que Michel Louvain, je pense qu'il n'y avait pas grand secret autour de Michel Louvain. C'est juste que nous autres, on a poussé ça un peu loin. Et c'était, tu sais, quand on donne un exemple de est-ce que RBO referait ce gag-là aujourd'hui? Ben non. Mais la réalité a changé. Le contexte a changé aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlerait pas de ce sujet-là, on en parlerait certainement autrement. Tu sais, regarde, je donne un exemple bien niaiseux parce qu'on on parle beaucoup de ce genre de choses-là présentement, puis ça ramène le cas de ce qui est arrivé à Joël Legendre il y a plusieurs années dans un parc. Ben, c'est certain que on pourrait faire des gags là-dessus, tu sais, c'est sûr.
Ouais.
Mais là on tombe pas dans sortir quelqu'un du placard de force, mais je pense que ce procédé-là a été mis de côté après la grande controverse de Pinard à Pimentfort.
Ouais, tout à fait.
Et ça a mis fin à ce genre de choses-là, mais bon, à l'époque, ça se faisait. Les cyniques l'ont fait, je sais pas combien de fois.
Ah, totalement. Ben oui, alors, tout à fait. T'as tout à fait raison. Mais c'est bien, c'est intéressant de faire le parallèle, en effet, avec les cyniques. Mais je suis contente que t'en parles parce que si on met les cyniques plus RBO, je peine à trouver quelqu'un aujourd'hui parmi les humoristes individuels, donc pas dans un groupe d'humoristes, qui soit aussi bête et méchant que vous l'avez été ou que les cyniques l'ont été.
Ben, moi, je suis moins familier avec ce qui se fait présentement. C'est un milieu. Je suis encore quelqu'un de comique, mais je me considère pas comme un humoriste pratiquant, disons. j'ai moins vu ce qui s'est fait récemment, mais Yves Pelletier me parlait de ça il y a pas longtemps. On s'est vu, puis Yves a fait pas mal de spectacles dans les dernières années, puis il connaît un peu plus ce milieu-là. Puis il dit non, sur scène présentement, il y a beaucoup de gens qui pratiquent ce genre d'humour-là. La différence, c'est qu'il n'est pas pratiqué nécessairement à la télé, par exemple.
Voilà. Donc, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui est, je l'ai noté, la frilosité des diffuseurs, c'est quand même ça qui a changé. Et évidemment, les réseaux sociaux. Pour finir, André, ton plus beau et ton pire moment avec RBO. On commence avec le plus beau moment.
Ah, bah, écoute, j'en ai quelques-uns, mais je pense que le spectacle à la place des festivals à Montréal en 2014, si ma mémoire est bonne, devant une foule qui est estimée à 100 000 personnes.
Wow.
C'est ça. Celle-là, j'avoue que ça m'avait vraiment rentré dedans. C'était un spectacle. Moi, je pense que c'est le meilleur spectacle qu'on a jamais fait. Puis, en plus, c'est niaiseux, mais c'est important pour moi. Mes enfants étaient là. Mes enfants ne m'avaient jamais vu sur scène. Mes enfants étaient rendus en 2014. Ils étaient quand même rendus assez vieux, là. Il était dans la vingtaine, mais il n'avait jamais été conscient de ce que Rock et Belles Oreilles avait représenté. Il était trop jeune à l'époque. Ma conjointe m'a dit que tout le long du spectacle, les yeux étaient très, très, très grands ouverts du côté de mes enfants. Ils n'en revenaient pas. T'sais. Fait que ça c'était
très
cool.
Très beau. Très beau. Et le pire moment, ça aurait été quoi, André?
Ben, il y a un truc qui nous est arrivé en 90-91, on a eu un accident d'auto. Moi, j'étais dans l'auto, puis on a failli y passer. C'était pas le moment le plus fun de notre vie. Sauf que il y avait trois des membres d'RBO qui étaient dans l'auto. J'ai inclus Jacques Primo là-dedans, notre gérant. Il y en a trois autres qui étaient restés dans la ville où on faisait le spectacle. Et quand on s'est retrouvés, je dirais que c'est à partir de ce moment-là, quand on parlait au début d'entrevue qu'on est devenu une famille, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenu une famille parce qu'on a réalisé qu'on avait failli se perdre.
Oh, qu'est-ce que c'est beau, beau témoignage. Écoute, j'ai des frissons.
J'ai un grand sensible, hein?
Ben là. J'en ai jamais douté, André. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Puis écoute, bravo, vraiment, félicitations au petit cul le 8 mai 81 qui est arrivé avec cette chanson-là, Le feu sauvage de l'amour. Puis message à tous les petits culs de 16 ans, accrochez-vous à vos rêves. Merci beaucoup, André Ducharme.
Hey, merci à toi. Hein. Bye-bye.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Frédéric Lacroix est essayiste, chroniqueur, scientifique, et pas plus tard que la semaine dernière, il a reçu le prix du livre politique de l'Assemblée nationale 2021 pour son essai « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Donc, j'avais deux bonnes raisons de vouloir le recevoir aujourd'hui. Premièrement, pour le féliciter, puis deuxièmement, pour parler justement de la réforme de la loi 101. Monsieur Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Félicitations pour ce prix, donc le prix du livre politique remis par l'Assemblée nationale. Étiez-vous surpris de recevoir ce prix-là la semaine dernière?
Oui, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, c'est un livre que j'ai écrit dans mon coin en voulant faire œuvre utile. Puis je pensais pas qu'il se mériterait un prix, là, tout simplement.
Mais il s'est mérité un prix aussi parce que c'est un livre qui a énormément alimenté la réflexion aussi bien auprès des politiciens que auprès des chroniqueurs, auprès de la population en général, parce que dans ce livre-là, vous faites un constat d'échec de la loi 101. Pourquoi c'est un échec, la loi 101, M. Lacroix?
Ben, c'est un échec parce qu'il faut se reporter aux objectifs que la loi visait. Donc, les objectifs sont dans le livre blanc que Camille Lorrain a déposé un peu avant son projet de loi. Puis, l'objectif premier de la loi, c'était d'empêcher, en fait, l'érosion prévue du poids démographique des francophones. Cette érosion-là avait été prévue par les démographes de la commission Gendron en 1973. Donc, on disait, il faut faire quelque chose. Sans ça, ben les francophones vont être progressivement mis en minorité au Québec. Donc, ça, c'était l'objectif premier de la loi. Puis, ben si on se reporte à aujourd'hui, on assiste depuis 15 ans à un effritement du poids démographique des francophones. Donc, la loi 101 n'a pas arrêté ça, mais il faut être honnête, là, et puis il faut dire que la loi 101, en fait, de Camille Lorrain, c'est pas celle qui est en échec. Celle qui est en échec, c'est celle que nous ont pondu tous les jugements des tribunaux fédéraux qui ont démoli la loi. Donc, le plein effet de la loi 101 originale, on le sait pas, on le connaît pas parce qu'on n'en a jamais bénéficié. Dès 1979, la loi a été charcutée, donc la justice est redevenue bilingue au Québec. Donc, le chapitre 3 de la charte a sauté, etc. Puis, on a assisté depuis 79 à une série de jugements qui allaient tous, presque tous dans le même sens, soit de rendre la loi plus faible, de réintroduire le bilinguisme, etc.
Ouais. Sur votre compte Twitter, vous avez mis une citation de quelqu'un. Je veux juste la retrouver. Pardonnez-moi pendant que j'essaie de la retrouver. Quelqu'un qui a écrit la semaine dernière, quand François Legault a présenté la loi 96, donc le projet de loi de Simon Jolin-Barrette pour renforcer supposément la loi 101. Bref, quand François Legault a présenté la loi 96, il a avancé que cette loi était excellente puisque certains vont dire qu'elle va trop loin, d'autres qu'elle n'en fait pas assez. Le problème, c'est que personne ne dit qu'elle va trop trop loin. Donc, alors que au moment de l'adoption de la loi, Camille Lorrain, même René Lévesque trouvait avait des réticences par rapport à la loi 101. Il avait des malaises. Il trouvait que dans certains domaines, ça allait trop loin. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Je sais que c'est toujours dangereux d'essayer de faire parler les morts, mais qu'est-ce que Camille Lorrain ou René Lévesque auraient pensé de la loi 96? Ils auraient été catastrophés, désolés, inquiets?
Je ne sais pas, mais ce qu'on sait, c'est que M. Jeannin Barrette et M. Legault aimeraient bien se voir comme les héritiers de René Lévesque et de Camille Lorrain, mais je pense pas que le projet de loi 96 leur permette de clamer ça. Parce que
où est-ce qu'ils ont failli? Quelle est la plus grosse faille? Parce que quand on revient à l'objectif premier, revenons à ce que vous venez de nous dire là. L'objectif premier, je l'ai noté, empêcher l'érosion démographique. En quoi la loi 96, quelle est sa pire faille pour empêcher justement cette érosion démographique?
Ben, je dirais que c'est probablement la façon dont elle a été conçue. Puis ce à quoi vous faites référence, c'est un message que M. Legault a publié sur son compte Facebook en même temps que la loi était dévoilée. Il disait, certains vont dire que ça va trop loin, certains vont dire que ça va pas assez loin. Ça va prouver qu'on est raisonnable.
C'est ça. Et monsieur, oui.
Donc, la conception de la loi, c'est qu'on regarde un peu le jeu politique immédiat, on fait une moyenne, puis on se situe à cette moyenne-là. Mm-hmm. Donc, on se place pas du point de vue de la nécessité historique auquel on fait face. On se hisse pas au-dessus des contingences politiques immédiates. Fait qu'il a voulu faire une loi qui rencontrait un peu la moyenne du jeu politique immédiat. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que c'est une loi qui est conçue d'un point de vue strictement juridique. C'est un pléonasme d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que la langue est considérée d'un point de vue purement juridique. La langue devient un objet juridique. Donc, on dit on va faire plein d'articles de loi, on va créer des structures, on va sauver le français comme ça. Mais la langue, c'est pas un objet juridique.
C'est quoi la langue, monsieur Lacroix?
C'est un objet culturel. La langue, c'est la culture. Puis, dans le projet de loi 96, la culture est totalement absente. Puis si on se replace pour la charte originale en 77, ben l'équipe, Camille Lorrain n'était pas juriste, il était psychiatre. Puis l'équipe autour de Camille Lorrain, c'était Guy Rocher, Fernand Dumont, des sociologues. Il y avait aussi
l'approche était différente. Ouais.
C'était une approche culturelle beaucoup plus. Là,
on a
une approche presque strictement juridique. Fait que moi, je dis pas que le projet de loi 96 est mauvais. Je pense que juridiquement, il y a des bonnes choses. Je dis seulement que ce projet de loi-là ne va pas arrêter la minorisation des francophones.
Voilà.
À mon avis, pas changer grand-chose.
Mais c'est intéressant ce que vous dites et je pense que ce qui a étonné et déçu beaucoup de gens, c'est le changement de vocabulaire. Parce que rappelons-nous, Simon Jolin Barrette, à plusieurs reprises, le ministre a dit « ça va être costaud, ça va être costaud, ça va être costaud ». C'était le mot qui revenait le plus souvent. Or, quand il l'a présenté, quand François Legault l'a présenté, tout d'un coup, c'est devenu raisonnable. Mais la dernière fois que je l'ai vérifié dans un dictionnaire, « costaud » et « raisonnable », c'est presque antinomique, là. C'est pas du tout la même chose, là.
Ben, moi, je comprends que M. Legault a probablement écarté tous les éléments costauds du projet de loi. Ce qui est remarquable dans le projet de loi, c'est qu'il n'y a aucun élément qui envoie un signal fort à l'effet que le français reviendrait au centre du jeu au Québec, que le français redeviendrait une langue incontournable. Il n'y a aucun élément qui envoie ce signal-là. Ce signal-là psychologique est extrêmement important. Pour la charte, on mettait en place l'unilinguisme français dans l'affichage. Ça, c'était un signal psychologique très fort à l'effet que là, le français est incontournable. Là, on fait pas ça. Les municipalités bilingues, on leur dit, ben, vous votez une petite motion, puis vous pouvez rester bilingue, même si vous avez 0,1% d'anglophones. C'est ridicule. Les cégeps, ils vont même pas aussi loin que le PLQ. Ils font même pas un gel des places au cégep anglais.
Et l'immigration. Monsieur Lacroix, il faut absolument parler de l'immigration, parce que quand vous avez dit, je reviens à ce que vous nous avez dit, empêcher l'érosion démographique, tout est une question de démographie dans ce dossier-là. Or, les démographes le disent, 2030, les francophones seront minoritaires à Montréal. Comment peut-on espérer empêcher l'érosion démographique si on fait rentrer 50 000 personnes chaque année et qu'on ne s'assure pas qu'avant de rentrer ici, ils parlent français?
Oui, je vous corrige, les francophones sont déjà minoritaires du point de vue de la langue maternelle à Montréal depuis 2006, et d'un point de vue de la langue d'usage, donc la langue parlée le plus souvent à la maison, ils vont le devenir peut-être en 2022 ou en 2026. Donc, on va voir au prochain recensement. Donc, ça ne sera pas, à mon avis, pas aussi loin qu'en 2030.
Ah oui, bon, vous me déprimez encore plus, là, aujourd'hui.
Non, mais... Donc, l'immigration est une des variables cruciales, puis l'immigration n'est pas du tout ciblée dans le projet de loi. On crée un guichet unique, bon, ce qui est probablement une bonne idée, mais ce qu'il faudrait
faire... C'est administratif, là. C'est bureaucratique. Oui, c'est une réponse bureaucratique à un problème démographique.
Oui, c'est ça. Puis la question, c'est comment les francophones qui sont minoritaires pourront-ils prétendre intégrer des immigrants en tant que minorité, là. Eux-mêmes seront une minorité. Donc, on a un problème de très grande envergure à Montréal. Puis le niveau d'immigration est excessif. Ça, c'est clair. On reçoit beaucoup trop d'immigrants. C'est une des raisons pour lesquelles le français a autant reculé dans les 15 dernières années. Les niveaux d'immigration ont été rehaussés massivement à partir de 2003. Puis là, la CAQ va conserver les niveaux d'immigration du PLQ. Donc, c'est ça.
Moi, je trouve que c'est triste. Moi, j'espérais mieux pour mon fils qui a 13 ans que de l'élever. Quand j'ai conçu mon fils il y a 13 ans, je pensais pas qu'il viendrait au monde dans une province qui, quand il va avoir l'âge de la majorité, il va se retrouver en minorité. Vous comprenez le jeu de mots? Je trouve ça triste, ouais. Monsieur Lacroix. Vous, est-ce que ça vous a triste ou ça vous met en colère?
Les deux à la fois. Moi, je trouve que il faut agir. C'est quelque chose que je répète depuis quelque temps. Puis, oui. Ce projet de loi-là, ça peut être un premier pas intéressant, mais ça va pas changer la situation. Donc, il faut en avoir conscience, puis il faut exiger plus de M. Legault et de M. Jolin Barrette. Là. On peut pas se contenter de ce qu'ils viennent de déposer. Ça, c'est pas vrai, là.
Mais en même temps, Monsieur Lacroix, la réalité des chiffres, elle est là. La CAQ mène dans les sondages à 40% et plus même des intentions de vote. Et le Parti libéral qui arrive deuxième est à 20%. Donc même si on prend les trois partis d'opposition, on n'arrive même pas à contrer la CAQ. Donc ils ont le vent dans les voiles. Puis même s'il y a des bémols majeurs qui sont émis face au projet de loi 96, eux, ils peuvent très bien se mettre les mains dans les poches puis siffler un petit air sans s'en préoccuper.
Je suis pas du tout d'accord. Si on se reporte, il y a quelques années, le PLQ de Philippe Couillard se redirigeait vers une réélection facile, puis l'esprit qui régnait, c'était impossible de perdre. Ils avaient des intentions de vote extrêmement solides. Puis, on connaît le dossier Philippe Couillard. Moi, je pense que la glace sous les patins de la CAQ est très, très mince en réalité. Ça leur prend absolument le vote nationaliste pour prétendre à une réélection majoritaire. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce projet de loi-là, ils ont réussi à coaliser les fédéralistes avec eux. Mais je pense pas que les nationalistes vont être de leur côté. Donc,
on va devoir se quitter là-dessus, Monsieur Lacroix, malheureusement, mais je retiens en effet l'expression « la glace est mince sous les patins de la CAQ » sur la question nationaliste. Frédéric Lacroix, essayiste, chroniqueur, scientifique, merci beaucoup. Félicitations pour votre prix, le prix du livre politique 2021 pour votre livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Merci.
Merci. Bonne journée.
Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy qui lui est toujours vite sur ses patins, hein. Lui, la glace est pas mince en dessous de ses patins. Il est toujours rapide à la mise en onde, à la réalisation. William Boivin à la recherche. Et moi, je vous dis à demain.
Cube Radio.